Alors, par la grâce de Dieu, nous allons regarder ce matin la continuité de Éphésiens, et je vous invite sans plus tarder à regarder avec moi la suite de ce que nous avions vu dimanche dernier, qui était Éphésiens 5, verset 22 au verset 33. Nous en sommes au chapitre 6, et j'aimerais sans tarder qu'on lise les versets qu'on va regarder ce matin. La Bible dit, au chapitre 6 d'Éphésiens, chapitre 6, donc verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Prions. Notre Père céleste, merci de placer devant nous ta parole qui est vérité. Tu as prié Jésus que ton peuple serait sanctifié par ta parole. Et encore ce matin, ta parole a quelque chose à nous dire, hein, que nous puissions être attentifs, recevoir l'enseignement et le mettre en pratique pour ne pas être comme un auditeur oublieux, nous rappelle Jacques, mais de transformer nos vies par la puissance du Saint-Esprit, le laisser agir en nous et laisser agir la parole de Dieu et nous soumettre à tes directives afin d'être exactement dans ton plan, dans toutes nos relations personnelles et familiales et de société. Nous prions, Seigneur, que nous puissions mettre notre vie en règle devant toi, si c'est nécessaire, et nous te le prions ce matin, au nom de Jésus. Amen. Dans l'Épître aux Éphésiens, encore une fois, dans les trois premiers chapitres, en résumé, Paul nous dit ce que nous sommes en Christ. C'est notre position, nous sommes assis dans les lieux célestes et nous sommes l'objet de la bénédiction d'un Père céleste qui a des bénédictions en réserve pour ses enfants de façon extraordinaire, et notamment le salut qui nous a été accordé, nous qui étions des enfants de rébellion, n'est-ce pas, qui étions liés à la puissance des ténèbres. Dieu nous a transformés, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, et il nous a fait passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. À partir du chapitre 4, l'apôtre Paul nous invite à marcher selon ce que nous sommes. Nous sommes assis dans les lieux célestes, mais nous marchons sur terre, et le reflet de ce que nous sommes en Christ devenu, et ce que nous possédons en Christ, et ce que Christ nous possède en quelque sorte, maintenant Paul nous dit de le mettre en pratique de façon mesurable dans notre marche. Et le thème du chapitre 4, chapitre 5, et j'ai ajouté chapitre 6, on pourrait dire que c'est la marche du croyant. À partir du verset 18, nous avons vu que l'apôtre Paul nous invite à être remplis du Saint-Esprit. La première exhortation de l'apôtre Paul, c'est d'avoir une marche digne, selon la vocation qui nous a été adressée. Ensuite, il nous invite à marcher dans l'unité, notamment dans l'Église, Christ étant la tête du corps de l'Église et qui est l'Église dont il est le chef. Aussi, l'apôtre Paul nous invite à ne pas marcher comme les païens, donc en nouveauté de vie. Et aussi, il nous invite à marcher dans l'amour du Père, il nous invite à marcher dans la lumière, il nous invite à marcher dans la sagesse, et finalement, même si le mot « marcher » n'y est pas, à partir du verset 18, en tout cas, il nous dit d'être rempli du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul, à partir du verset 18 du chapitre 5 jusqu'à chapitre 6, verset 20, nous invite à vivre par l'Esprit, et notamment, il nous invite à marcher dans l'Esprit, individuellement, dans le sens d'être rempli du Saint-Esprit. Il nous invite à marcher rempli du Saint-Esprit dans l'Église, verset 19 à verset 21, il y a tout un tas de résultats pratiques du fait que le croyant est rempli du Saint-Esprit, notamment dans l'Église, et notamment, il parle de la soumission réciproque entre les enfants de Dieu. Il n'y a pas d'unité dans l'Église et de bonnes relations s'il n'y a pas de soumission réciproque, s'il n'y a pas d'humilité, parce que pour se soumettre, ça prend de l'humilité, ça prend aussi une direction du Seigneur. Et l'apôtre Paul en fait la première application, non seulement dans l'Église, au sujet de la soumission, mais aussi au sein de la famille. Et l'apôtre Paul souligne l'importance pour la femme d'être soumise au mari, comme Christ l'est envers l'Église. Et nous avons regardé ensemble la relation de l'époux avec l'épouse, en image avec la relation de ce que Dieu dit au sujet de Christ et son Église. Donc le titre du message ce matin, c'est la marche par l'esprit au sein de la famille, la soumission des enfants. La Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Et nous avons, je n'ai pas pris le temps de prendre le verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur ». Parce que finalement, je crois que ce sera l'objet d'un autre message, vu l'étendue du sujet et la pertinence du sujet, surtout dans notre société. Vous avez déjà essayé de mettre une grenouille dans une casserole et de commencer à chauffer l'eau. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Alors n'essayez pas, s'il vous plaît. Hein. Mais j'ai lu cette illustration. Vous prenez une grenouille, vous la mettez dans l'eau. Et petit à petit, vous faites chauffer l'eau. Et vous savez ce qu'elle va faire, la grenouille? Elle va être tellement satisfaite que graduellement, elle va laisser tout simplement l'eau, elle va s'adapter à la température de l'eau jusqu'à un point où elle ne pourra plus s'adapter. Et finalement, elle va rester comme paralysée dans l'eau bouillante et cuire à petit feu. Vous savez, Satan veut la mort de la famille. Et c'est exactement comment il s'y prend avec nous. On n'est pas des grenouilles. Mais quelque part, même les familles chrétiennes exposées au monde peuvent tout d'un coup devenir insensibles à ce qui est le danger de ce que Satan propose à la famille. Le divorce au sein du foyer, l'adultère, les enfants rebelles, les parents qui n'éduquent pas les enfants selon le Seigneur, des enfants rebelles. Savez-vous quoi qu'aux États-Unis ? Chaque année, il y a 8 millions d'enfants qui sont répertoriés comme ayant battu leurs parents. Physiquement, 8 millions d'enfants. Vous allez dire, oh là là, c'est les États-Unis. Ouais, mais je suis sûr que si on avait des statistiques en France, on serait surpris de voir la violence physique parfois des enfants avec leurs parents. Satan a anesthésié la vérité de Dieu concernant la famille. Et Satan, en attaquant la famille, il ébranle la base de la société. Car il n'y a pas de vraie société stable s'il n'y a pas de famille stable. Donc Satan attaque le couple. C'est pour ça que Paul, n'est-ce pas, la première application qu'il fait lorsqu'il parle de la plénitude du Saint-Esprit ou le fait d'être rempli du Saint-Esprit, dans le couple, c'est la relation mari et femme. La relation mari et femme est la base d'une société selon Dieu, ce qui est juste devant Dieu. Or, aujourd'hui, avec le vote, n'est-ce pas, que le gouvernement nous propose, on est loin du plan idéal de Dieu et du plan juste de Dieu. Ce n'est pas un plan impossible, c'est le plan de Dieu, parce que c'est lui qui a institué le mariage et c'est lui qui a institué Adam et Ève dans une relation conjugale selon son plan. Et quand la société commence à, n'est-ce pas, accepter comme presque une norme les déviations, les rébellions de l'homme, du cœur de l'homme, n'est-ce pas? Et la révolte ouverte, où va-t-on? Et donc, le sujet est pertinent ici. Paul dit, voilà, vous êtes remplis du Saint-Esprit, voilà le comportement que vous allez avoir au sein du foyer. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, une famille qui veut être selon le plan de Dieu, alors les enfants vont obéir aux parents. Et les pères vont élever les enfants selon le plan de Dieu, avec correction et instruction. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez savoir comment vous conduire dans la société en tant que serviteur, en tant que maître. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez savoir comment combattre le combat spirituel dans lequel, malheureusement, on est placé dans un sens, malgré nous. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez savoir comment prier, versets 18 à 20. Voyez-vous, ce n'est pas optionnel, c'est incontournable d'être rempli du Saint-Esprit et de suivre les commandements de Dieu pour être ce qu'il nous demande d'être sur cette terre, sachant qu'on n'a qu'une vie à vivre sur terre. Quelle est la trace que nous laissons de nos vies sur cette terre? Est-ce que nous sommes des modèles bibliques selon le plan de Dieu en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant dans sa relation avec les parents, en tant que parent dans leur relation avec les enfants? En tant que serviteur, en tant que maître, vous avez compris l'idée ici de l'apôtre Paul. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alors je voudrais retourner un petit peu en arrière pour parler de la marche du croyant en tant qu'individu, donc au sein de l'Église, au sein de la famille, le couple, relation enfant-parent, parent-enfant, on regardera ça plus tard, au sein de la société. et puis dans le combat spirituel et dans la vie de prière. Et puis, j'aimerais faire un retour donc, au verset 21 sur la soumission. Puisqu'on parle de la soumission, je n'ai pas ressouligné une certaine définition de la soumission quand on en a parlé au sujet de l'épouse en relation avec le mari, mais la soumission chez le croyant est la conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. C'est un vrai fruit de l'Esprit qui inclut évidemment dans ce cas-là une attitude humble, enseignable, qui est prête à se soumettre, à se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Dans quel domaine de nos vies doit s'exercer cette soumission? Ben, on a déjà vu au sein de l'Église, au sein de la famille, au sein de la société, en étant soumis notamment aux autorités en général. Les enfants insoumis à la maison, comment voulez-vous qu'ils soient soumis après à l'école? En parlant aux professeurs aujourd'hui, ils demanderaient presque d'avoir des cours de pédagogie pour apprendre aux enfants certaines règles de savoir-vivre, alors que la société est en train de donner une responsabilité à l'école, n'est-ce pas, ou les parents que l'école ne devrait pas avoir. L'éducation de cœur, d'attitude morale, doit venir de la famille. Et c'est terrible de voir, n'est-ce pas, à l'école, le temps que passe par heure de cours le professeur d'essayer d'exercer la discipline pour enfin pouvoir passer la matière, n'est-ce pas? En règle générale, vous parlez avec les professeurs, ils sont d'accord là-dessus. Et en fait, si vous avez un doute du fait que vous devez vous soumettre, regardons à l'exemple de Jésus-Christ, on n'a pas le temps de le regarder, c'est juste un rappel, on l'avait vu la dernière fois, qui lui s'est soumis en toutes choses, et notre frère nous l'a rappelé en plus dans la table du Seigneur tout à l'heure. Dans le couple, on a vu que la relation du mari et de la femme est comparée à celle qui unit Christ et son Église. Pour l'Église, c'est la soumission envers la tête. Pour le mari, c'est diriger, aimer, se sacrifier, sanctifier, prendre soin de son épouse. Et pour la femme, c'est se soumettre et respecter son mari. Alors nous arrivons ainsi dans ce contexte à la responsabilité des enfants. Et là, c'est incontournable. Vous savez, vous pouvez lire toutes sortes de livres sur la psychologie des enfants. Vous allez lire toutes sortes de livres sur l'éducation des enfants. Mais le texte biblique est beaucoup plus simple que toutes les traités et toutes les philosophies qui existent aujourd'hui concernant la psychologie des enfants et l'art d'éduquer les enfants de la part des parents. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, pères, élevez vos enfants, les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. C'est clair. Je veux dire, il n'y a que deux versets. Oui, c'est vrai que dans Colossiens aussi, il est écrit « Enfants, obéissez en toutes choses ». De même que l'épouse doit se soumettre en toute chose à son mari. Alors il n'y a pas d'exception, c'est enfant, tout enfant doit se soumettre en toute chose à ses parents. La Bible est claire, mais l'homme, parce qu'il est irrégénéré, tant qu'il est irrégénéré, qui ne se laisse pas conduire par la parole de Dieu, il suit des traces bien compliquées concernant les relations familiales. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a tant de divorces, ce qui explique aujourd'hui qu'il y a tant d'enfants de divorcés qui n'ont plus ni père ni mère, et aujourd'hui qu'il y a des enfants qui sont adoptés par des homosexuels ou des lesbiennes. Imaginez le tableau que c'est pour Dieu de voir sur cette terre la destruction, le dérèglement familial, lui qui a instauré tout cela les temps anciens. Le cœur de Dieu doit être bien triste de voir cela. Alors est-ce que nous allons être le sel, la terre, la lumière du monde pour rectifier ces maux de la société? Aujourd'hui, s'il y a un témoignage qui parle plus fort que tout le reste, c'est le témoignage de la famille. C'est l'équilibre au sein de la famille. C'est l'équilibre au sein du couple d'abord, mari et femme. C'est l'équilibre entre les enfants et les parents et les parents et les enfants. Il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que de voir une famille, selon le plan de Dieu, heureuse, soumise à Dieu et remplie du Saint-Esprit. C'est une joie, c'est une perle, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Face à la souffrance qu'il y a dans les foyers, un foyer uni porte cette vérité et témoigne de Jésus ainsi, de la vraie vie dans ce monde qui est très ténébreux, est très déséquilibré à bien des égards. Alors la Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc ici, en fait, on va retenir les deux principes clés qui sont mentionnés concernant le rôle des enfants, c'est obéir, honorer. La femme doit être une aide et doit se soumettre, le mari doit diriger et servir, et l'enfant, lui essentiellement, doit obéir et honorer. L'obéissance, c'est l'acte, n'est-ce pas ? L'honneur, c'est l'attitude qui permet d'obéir et de se soumettre. En fait, vous allez me dire, mais ce message ne me concerne pas ce matin. J'ai quand même un certain âge. Alors j'aimerais vous dire que le mot grec, techna, ne désigne pas seulement les jeunes enfants. On pourrait penser, en lisant ce passage, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Alors juste une petite anecdote, mais Isaac, lorsque son père a été prêt à le sacrifier à Abraham, ça nous a été rappelé hier, il avait quel âge ? 25 ans. Lorsqu'Abraham a décidé d'envoyer son serviteur chercher une épouse pour Isaac, et qu'Isaac s'est soumis, n'est-ce pas, à la volonté d'Abraham, en voyant au travers de la volonté de son père, relation de confiance extraordinaire, la volonté de Dieu, il avait 40 ans. Alors il demeurait, c'est vrai encore, pas sous le toit, mais sous la tente du papa Abraham. Mais la Bible dit que, enfin, le mot « enfant », excusez, signifie pas simplement les jeunes enfants, mais tous ceux qui ont des parents. Alors vous allez dire, jusqu'à quel point ce message va me concerner ? Jusqu'à quel âge je dois penser que je dois me soumettre à mes parents ? On va voir les choses plus en détail au fur et à mesure de ces versets et les explications textuelles, n'est-ce pas, de ce passage. En fait, fils et filles qui sont encore sous le toit paternel doivent obéir à leurs parents et les honorer. Et j'aimerais dire ceci, retenez bien, l'enfant qui a appris en grandissant à obéir à ses parents et à les honorer reste sensible toute sa vie à leur sagesse, leurs avis et leurs besoins. Nous avons observé, ma femme et moi, que nos enfants, évidemment, ont quitté, nous les avons laissés partir parce que le rôle des parents, c'est de préparer l'avion afin qu'un jour il puisse décoller et voler, pas de ses propres ailes, évidemment, parce que l'avion n'a pas des ailes qui bougent, mais vous comprenez. En tout cas, l'oiseau quitte son nid, vole de ses propres ailes, et l'avion s'envole vers la destinée que Dieu lui conduit. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais il n'empêche pas moins qu'on reste parent à vie. Pensez à élever des enfants, 5 ans, vous dites, oh là là, avoir un enfant, ouais, écoutez, après 10 ans, 20 ans, à 20 ans quand même, il sera autonome, donc... C'est à vie d'être parent, c'est à vie. Alors les enfants qui ont été élevés en obéissant et en honorant les parents, certainement ils quittent, mais on a observé, ma femme et moi, de visu et d'expérience, n'est-ce pas, que les enfants y reviennent. Et puis ils sont très heureux de revenir à la maison. Papa et maman, où est-ce que vous passez les vacances cet été ? Est-ce qu'on peut être avec vous ? Alors moi, quand ils me disent ça, je suis aux petits anges, je suis aux petits oignons, je dis rien, mais à l'intérieur, je suis tellement rempli de joie. Ou quand des enfants arrivent, ah, oh, papa, ils me prennent dans ses bras, ils disent, je t'aime, papa. Oh là là. Je fonds comme beurre au chocolat, comme beurre au soleil, comme chocolat au soleil. C'est merveilleux, cela. En fait, ce qu'on sème chez les enfants, un jour, on le récolte. Ça vaut la peine d'élever les enfants selon le Seigneur, parce qu'un jour, on récolte, si on a appris l'obéissance... Et qui est dû aux parents et l'honneur qui est dû aux parents. Un jour, on le récolte et ça se multiplie parce que même, j'espère que nos enfants vont enseigner à leurs enfants ce que c'est que d'obéir et d'honorer ses parents pour que l'héritage spirituel, selon Dieu, et le plan de Dieu qui a été établi dès l'éternité concernant la société et la famille, se transmette de génération en génération. Du temps des juges, il y avait une rupture, c'était terrible, n'est-ce pas ? Après Israël qui était au désert, il y avait une nouvelle génération qui ne savait pas ce que Dieu avait fait, les miracles que Dieu avait accomplis. Et c'était le chaos, c'était l'anarchie. Et donc Dieu a suscité des juges par pure grâce, mais il y avait une génération qui était en train de se perdre entière. Savez-vous, j'ai vu de mes yeux une génération engagée pour le Seigneur, une deuxième mi-figue mi-raisin et une troisième issue donc des deux autres générations perdre la foi, ne pas entrer dans le salut. La génération spirituelle doit se communiquer de génération en génération pour transmettre le plan de Dieu. C'est extraordinaire, vous avez un mandat. Et ce mandat, c'est de comprendre ce qu'est le rôle des enfants, autant pour vous maintenant, il y aura certainement des applications ce matin pour vous, que lorsque vous allez élever des enfants vous-même. Et peut-être aller voir vos parents et demander pardon si vous avez failli. Ma maman est décédée dans un accident d'automobile. Et je vais vous dire, quand je me suis converti, j'étais convaincu de péché dans ma mémoire. J'ai dit un jour une parole à ma maman, sous la colère, l'irritation. Hein, les enfants, on n'est pas des petits anges. Et cette parole, je l'ai toujours eu dans mon esprit. Et quand je me suis converti, malheureusement, entre-temps, ma maman était décédée. Et je n'ai jamais pu aller lui dire combien je regrettais d'avoir dit cette parole, qui manquait d'honorer, de respecter et de se soumettre à ma maman. Alors, il y avait une très bonne relation, mais voyez-vous, dans nos consciences, on a parfois des attitudes qui ne sont pas dignes du Seigneur. Et si ça vous est déjà arrivé d'avoir une attitude comme cela, peu importe qui n'était pas digne devant Dieu, peu importe l'âge que vous avez, allez voir votre père, allez voir votre mère, demandez-lui pardon. Demandez pardon à Dieu. Allez voir votre père, votre mère, demandez pardon, s'il est possible encore. Obéissez à vos parents. Obéir, c'est le premier concept, principe. Obéissez à vos parents. Littéralement, ça veut dire entendre en dessous, écouter sous. Donc, se mettre en dessous. Écouter avec attention ce qui est dit et y réagir positivement. Se soumettre, vous voyez la façon d'écrire, aux paroles et à l'autorité des parents. En fait, le verbe est à l'impératif, ce n'est pas une option. Femme, aimez vos maris, ou soumettez-vous aux maris, ce n'est pas une option, c'est un impératif. Père, élevez vos enfants, c'est un impératif. Vous savez, dans nos traductions, parfois, on a des impératifs qui sont en fait des participes présents. Mais l'impératif, je peux vous dire qu'il est là dans l'original, et c'est un impératif qui demande donc une action, impératif présent, qui demande une action continuelle. Ce n'est pas une option parfois selon l'humeur des pères d'élever plus ou moins bien leurs enfants, et ce n'est pas une option pour l'enfant plus ou moins selon sa bonne humeur, mauvaise humeur, d'obéir aux parents. C'est une attitude permanente et continuelle que demande Dieu dans le cœur d'un enfant. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la rébellion de l'enfant était quelque chose qui était jusqu'à puni de mort. La Bible dit qu'on punissait de mort celui qui frappait ou maudissait ses parents, tout comme celui qui désobéissait continuellement. Et la Bible nous dit que les enfants doivent écouter l'instruction de leurs parents et y obéir. Dans les livres des Proverbes, qui est le livre par excellence de la relation des parents vers les enfants, de l'éducation des enfants, l'enfant rebelle doit être châtié. Et les parents ont la responsabilité d'élever les enfants selon le Seigneur, avec des règles bien précises. Ce n'est pas laissé au hasard. Si Dieu fonde la société, et c'est ce que Dieu a désiré en instituant le mariage, il ne laisse pas au hasard la relation mari et femme et au hasard la relation des enfants vers leurs parents et des parents vers leurs enfants. En fait, les parents sont l'autorité déléguée par Dieu pour élever les enfants. Et en fait, regardez bien ceci. Si cette autorité est déléguée, ça veut dire que l'enfant, lorsqu'il se rebelle envers l'autorité de ses parents, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il se rebelle envers Dieu lui-même. Quand nous nous rebellions en général contre l'autorité, ça vous est déjà arrivé? Vous n'avez jamais remarqué qu'un corps rebelle, c'est vraiment un corps rebelle qui se manifeste à plusieurs endroits, mais qui en fait est rebelle contre Dieu. C'est notre problème fondamental qu'on doit régler. Et les parents ont cette autorité déléguée pour amener l'enfant vers la connaissance de Dieu, jusqu'à un âge où ils comprennent le bien et le mal et font des choix. Mais l'autorité que Dieu a donnée aux parents, c'est de les élever pour apprendre leurs enfants à faire les bons choix. Mais même avant qu'ils se convertissent, même avant qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit et qu'on vive en famille des enfants convertis, remplis du Saint-Esprit, avec des parents remplis du Saint-Esprit et se soumettant les uns aux autres, il n'empêche pas moins que les enfants, même sans être régénérés, doivent apprendre en toute chose à obéir à leurs parents. Ça veut dire que les parents doivent tout faire et donner une correction, une instruction où l'enfant sait exactement ce qu'il doit faire et pas faire. Un enfant heureux est un enfant qui a des limites. On en reparlera. Donc c'est une autorité qui est déléguée par Dieu lui-même. Et nous devons comprendre que c'est quelque chose de très sérieux. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Obéir, c'est un impératif. Et c'est aux parents à qui Dieu demande les enfants d'obéir. Selon le Seigneur, en fait, obéir à ses parents, c'est obéir au Seigneur. Puis obéir en toute chose en accord avec la volonté de Dieu, certes, sauf si on lui commande de faire quelque chose de mal. Vous vous souvenez quand Pierre et Jean ont été empêchés de parler, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, versets 19 et 20. On doit se soumettre dans la mesure où on ne commande pas de faire quelque chose de mal. Si on vous dit d'aller tuer quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par exemple, parce que la Bible dit « tu ne tueras point ». Vous avez compris l'idée. Donc un enfant respectueux envers ses parents peut, et ça m'est arrivé dans mon ministère, d'avoir des enfants convertis, dont les parents inconvertis leur demandaient des choses qui n'étaient pas justes. Et ils avaient raison, jusqu'à un certain point, d'essayer de faire valoir leur point tout en se soumettant le plus possible. Mais on ne peut pas demander à un enfant quelque chose de faire qui soit mal. Et l'enfant n'est pas appelé à faire quelque chose de mal. C'est l'exception, mais c'est la seule exception. N'est-ce pas ? Car cela est juste, droit et correct. Le mot grec ici signifie juste, droit, ce qui est exactement comme il doit être. J'ai l'impression que c'est un peu comme le fil à plomb du maçon, n'est-ce pas ? On a eu ici un maçon qui trouvait bon de mettre les briques en pensant qu'elles étaient carrées donc les unes sur les autres, et on a dû refaire un mur, surtout Pierre ici, parce que le maçon avait fait un mur comme ça. Parce que la brique n'est pas à 90 degrés. Donc le fil à plomb permet chaque fois de rectifier, n'est-ce pas, le défaut de la brique pour que le mur, lui, soit d'aplomb. C'est ça ce qui est juste, c'est ce qui est d'aplomb, droit, pas selon le fil de la pesanteur, n'est-ce pas, lié à la pesanteur, mais selon le fil de Dieu. Ce qui est juste, ce qui est droit. C'est un ordre. Enfin, obéissez à vos parents. Je me place parce que c'est juste, c'est droit. C'est exactement ce que Dieu veut. Donc, il y a une bénédiction, on le sait, quand on fait ce qui est droit, ce que Dieu veut exactement. Donc, le fait pour les enfants d'obéir à leurs parents et de les honorer est juste, c'est-à-dire exactement ce qui doit être, parce que tout ce que Dieu exige est juste et droit. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est juste, et nous devons le faire parce que c'est juste et droit. Alors la Bible ajoute ici une deuxième responsabilité des enfants, c'est honorer. Obéir, honorer. Retenez cela, l'enfant doit obéir, doit honorer. C'est la bonne attitude, l'obéissance c'est l'acte, et l'honneur c'est la bonne attitude intérieure. Honore ton père et ta mère. En fait, littéralement, ici, ça veut dire évaluer avec haute estime, se tenir dans le plus grand respect. Alors, c'est vrai que c'est quand même facilité chez l'enfant lorsque les parents eux-mêmes sont respectueux et honorent leurs enfants et ont une attitude d'amour remplie du Saint-Esprit dans un foyer chrétien. Mais cela est vrai pour tout foyer, qu'il soit chrétien ou non. Enfin, obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère. Et ça, c'est individuel. Et dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, ce terme de révérence et d'honneur est utilisé envers Dieu et son Fils Jésus-Christ, entre le Père et le Fils, et envers le monde, incluant les autorités. Donc, le même respect que l'enfant doit avoir envers ses parents, c'est le respect qu'on doit avoir avec les autorités en général, et c'est exactement le respect qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, ce n'est pas optionnel, c'est une qualité de respect et d'honneur que Dieu nous demande à la ressemblance de la relation qu'il a entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc ça veut dire que la route est large, la piste est large à apprendre, n'est-ce pas ? Le terrain est large d'apprentissage, c'est ça que je veux dire. Que signifie le mot « honorer » ? En fait, le fait d'honorer, c'est l'attitude juste, on a dit cela, c'est l'attitude juste qui produit l'acte juste d'obéissance. Honorer quelqu'un ou quelque chose signifie lui accorder une grande valeur, le plus haut respect, l'estimer hautement. Honore ton père et ta mère. Donc pour les deux, il doit avoir le plus haut respect possible. Honorer son père et sa mère, c'est un ordre ici aussi. Alors il y a différence d'honorer son père et sa mère, il y a des façons affectives, il y a des façons respectueuses, diverses, et jusqu'au, c'est pour ça que enfant ça inclut même les adultes, jusqu'à honorer son père et sa mère, peut-être dans les jours de la vieillesse, ou eux-mêmes après, ils le voient, les enfants, 20 ans, 30 ans, s'être impliqués sur le plan physique, matériel, spirituel, peuvent récolter le bénéfice d'une certaine aide envers les enfants, puisque peut-être vieillissant, n'ayant plus peut-être les besoins matériels nécessaires ou les besoins physiques, et c'est dramatique aujourd'hui, les vieillards, les personnes âgées qui sont abandonnées par leur famille. C'est un mal du siècle. La solitude des vieillards. Vous allez dans les maisons de retraite, c'est terrible. Alors, tout le monde ne peut pas avoir papa et maman à la maison, mais dans les sociétés autres, il y a eu quand même un esprit communautaire où on intégrait les vieillards jusqu'au bout. Aujourd'hui, on sélectionne, n'est-ce pas, leur temps, leur lieu. C'est terrible, cela. Nous avons besoin d'apprendre et honorer nos parents jusqu'à leur mort. C'est une relation qui continue, qui commence dès la naissance et qui devrait se perdurer jusqu'à la mort de ses propres parents. Aimer, honorer, respecter. Retenez cela, vous tous ici. En fait, il y a un héritage à transmettre, comme je vous ai déjà dit. Dans les Proverbes, il est écrit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils et ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Le père a enseigné son fils comme son père l'avait enseigné lui. Ce que Dieu veut, c'est que les croyants transmettent ses instructions d'une génération à la suivante. » Une fois, j'ai vu une émission à la télévision qui montrait les Inuits, vous savez, ces Esquimaux qui vivent dans le Grand Nord, et qui apprennent dès le jeune âge à leurs enfants la survie. Parce que dans le pôle Nord, pour survivre, il faut savoir creuser un trou dans la glace, aller à la pêche pour pouvoir manger du poisson et se nourrir, sinon on en meurt, on meurt de faim. Et dès le jeune âge, les pères prennent leurs enfants et ils les identifient avec leurs activités parce qu'ils veulent leur apprendre la survie, n'est-ce pas, dans ces lieux lointains, mais si arides. Et nous devrions faire pareil. Il est question d'une survie, une survie spirituelle, parce que l'issue, c'est le ciel et l'enfer. Ce n'est pas simplement le bonheur sur la terre, le succès sur la terre, un bon mariage, une bonne profession, c'est un succès spirituel qui entre dans l'éternité. Nous devons faire de nos enfants des survivants qui savent survivre dans ce monde froid et glacé et savoir aller à la pêche au bon endroit, à la pêche, à la bonne nourriture spirituelle qui les amène à se conformer à Dieu et non pas au monde. La Bible ajoute, c'est le premier commandement. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. En fait, on trouve cela en Exode 20, chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Pourriez-vous tourner dans vos Bibles en Exode, chapitre 20. En Exode, chapitre 20, nous avons écrit ici les commandements de Dieu, les 10 commandements. Et nous avons les 10 commandements qui sont donnés par Dieu lui-même. Et au verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme. » Et puis, concernant la famille, c'est le premier commandement qui est donné. Et c'est donné aux enfants. Pourquoi ? Parce que quand les enfants font cela, ça veut dire que les parents font leur job. Et quand les enfants vivent ça, ça veut dire qu'un jour, ils vont transmettre cela à d'autres, à leurs propres enfants. Donc voyez-vous, le premier commandement que Dieu a donné dans la loi des 10 commandements, c'est un commandement relationnel des enfants vers leurs parents. Parce que quand les enfants honorent et respectent leurs parents, alors ça peut se transmettre. Et le reste vient avec. C'est donc un premier commandement, c'est donc qu'il est important, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Paul ici utilise ce commandement qu'il connaît bien dans l'Ancien Testament pour l'appliquer maintenant aux enfants. Il leur dit qu'ils vont vivre heureux et qu'ils vont vivre plus longtemps. C'est un commandement qui est essentiel dans la société. Toutes les relations qui existent dans la société découlent en fait de celles que les enfants ont avec leurs parents. Je répète cela, c'est important cette phrase. Toutes les relations qui existent dans la société découlent en fait de celles que les enfants ont avec leurs parents. Les enfants à la maison sont le reflet de ce qu'ils vont être ensuite dans la société, dans leurs relations, dans leur travail, avec les autorités, la police, le gouvernement, les professeurs, et ainsi de suite. Si à la maison, les enfants ne savent pas honorer et respecter leurs parents, à la limite, ils peuvent devenir des délinquants, des voyous. Ça, c'est l'extrême. Et c'est prouvé, notamment par le livre de Dobson, n'est-ce pas, « Oser discipliner », un très bon livre à lire en tant que parent. Il est prouvé que le manque de que la délinquance est proportionnelle au manque de discipline exercée au sein du foyer envers les enfants. Plus un enfant est cadré, plus il est heureux, plus il va suivre des voies droites, cadré de la bonne façon. Alors on verra, Dieu voulant, plus tard, ce que c'est que l'éducation des enfants, selon le plan de Dieu, parce qu'il peut y avoir aussi, malheureusement, des erreurs faites et qui n'en a pas fait en tant que parent. En fait, celui qui grandit avec un sentiment de respect pour ses parents et leur obéit, possède en lui le fondement nécessaire pour le respect de l'autorité et les dirigeants et pour celui de tout le monde en général. C'est incroyable l'attitude intérieure qu'on peut voir chez des adultes qui sont liés à une éducation où l'enfant a appris à obéir et à honorer père et mère. C'est un grand privilège. D'ailleurs, si vous avez été élevé dans le Seigneur, allez manifester à vos parents la reconnaissance du privilège que vous avez eu, d'abord devant Dieu, je m'entends, d'un père et d'une mère qui vous ont aimé dans le Seigneur. Certainement, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont tout fait pour vous élever dans le Seigneur. Et s'ils ont réussi, vous avez un héritage, un joyau qui vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. La Bible dit « Honore afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Le bonheur a trait avec la qualité de vie et la longueur de vie, évidemment avec la durée de la vie. Ça semble étonnant, n'est-ce pas? La Bible dit ici, c'est inspiré de Dieu, que celui, l'enfant qui honore son père, il est heureux. Je crois que ça, on est rapidement capable de le comprendre. Parce qu'un enfant qui est dans cet esprit-là est heureux. Les enfants qui sont élevés dans le Seigneur ont la joie, même sans être encore régénérés, jusqu'à ce qu'ils découvrent le Seigneur, ça c'est la joie du Seigneur. Mais un enfant qui est cadré selon le Seigneur, par des parents pleins d'amour mais pleins de fermeté en même temps, et qui les disciplinent, les corrigent et instruisent, est un enfant heureux. Les enfants sont malheureux lorsqu'ils ne sont pas cadrés, lorsqu'ils n'ont pas de repères. Enlever les repères, les enfants meurent. On a fait malheureusement une expérience terrible en Russie. En Russie, on a pris 40 bébés et on les a privés de leur maman. Savez-vous quoi? Ils sont morts. Parce que Dieu a créé le bébé pour être entouré avec beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Et lorsque cet amour est prodigué et tout le reste, alors l'enfant est heureux. Un enfant est heureux lorsqu'il se sent aimé et choyé. Assez extraordinaire d'élever un enfant avec amour et de voir cet enfant qui est heureux, qui est en sécurité parce qu'il se sent aimé. D'ailleurs, vous savez, lorsque les enfants voient les parents se disputer, se chicaner ou divorcer, il y a une souffrance terrible chez l'enfant. On dit aujourd'hui, oh, c'est la mode, les enfants séparés, ils s'en sortent plus ou moins bien finalement. Écoute, c'est la société. Il faut apprendre que les enfants qui ont des parents divorcés, quand même, ils ont même un privilège. Ils ont un autre père et une autre mère des deux côtés, d'autres demi-frères, demi-sœurs. Je peux vous dire que ça peut exister quand il y a la grâce de Dieu qui survient dans des familles comme ça. Mais en règle générale, les enfants qui voient des parents qui ne s'entendent pas sont malheureux. Et il y en a beaucoup qui quittent le foyer. On a une jeune fille, nous, qu'on connaissait à Québec, qui gardait nos enfants. Et j'ai plaidé avec larmes devant le Seigneur, devant elle, pour qu'elle se tienne dans le Seigneur. Malheureusement, elle a chuté un jour, mais ses parents étaient terribles. Ils exerçaient une pression sur cette jeune fille, un contrôle, une manipulation. Elle n'avait qu'une seule hâte, quitter le foyer familial. Mais elle l'a fait, mais pas de la bonne façon. Pas de la bonne façon, malheureusement. Elle n'était pas heureuse. Alors, des enfants élevés dans le Seigneur sont heureux. Une longue vie. Je vous lis en commentaire parce que je ne savais pas comment l'expliquer. D'accord ? C'est MacDonald qui dit, dans l'Ancien Testament, un enfant juif qui obéissait à ses parents jouissait d'une longue vie. Dans l'ère de la grâce, ce n'est pas une règle sans exception. L'obéissance filiale ne résulte pas toujours à une longue vie. Il arrive qu'un fils obéissant meure jeune. Dans un sens général, il est pourtant vrai qu'une vie disciplinée et soumise à l'autorité favorise bonne santé et longévité, alors qu'une vie de révolte et de témérité se termine souvent prématurément. C'est vrai qu'un enfant qui commence à prendre la drogue, malheureusement, à boire, à sortir, à avoir une vie déréglée, il n'a plus de chance, n'est-ce pas, d'avoir des problèmes de santé physique et même de santé, des problèmes de santé mentale. Donc en fait, quelque part, on se comprend. Il y a une qualité de vie, puis une bonne vie. Et c'est un privilège, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, je voudrais continuer, excusez, j'avais oublié ce tableau qui me semble important, pour terminer. Ce que dit la Bible au sujet de l'enfant, il y a un tableau qui est à établir. Évidemment, ici, ce n'est que quelques extraits de versets, mais il y a un portrait que la Bible donne, notamment dans les Proverbes, entre l'enfant sage et l'enfant insensé. La Bible dit que le sage est proche de Dieu, comprend la parole, s'y soumet, mais que le fou dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Dans les Proverbes, il y a deux voies. Il y a la folie humaine qui rejette Dieu, puis la sagesse de l'homme qui accepte Dieu et qui devient sage selon Dieu. Alors écoute, l'enfant qui est sage, écoute l'instruction de son père, ne met pas en oubli les enseignements, écoute les conseils de son père, retient les paroles et les préceptes de son père, fait la joie de son père. Parce que dans les Proverbes, l'accent est beaucoup mis sur le rôle du père envers les enfants, on le regardera la prochaine fois. Mais un enfant qui est désobéissant, il rejette l'enseignement de sa mère, fait le chagrin de sa mère, est décrit comme un insensé, un fou, et est une camillité pour le père, fait honte et fait rougir ses parents. Le tableau est clair dans les Proverbes, n'est-ce pas ? Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai, mais en tant que parents, c'est terrible ce que je veux dire, nous récoltons ce que nous semons, dans une certaine mesure. Mais je peux vous dire qu'en tant que pasteur, je vais souligner une grande vérité, c'est qu'en fait, beaucoup de problèmes en tant qu'adultes viennent de notre enfance. Pas tous, mais il y a quelque part une éducation qui permet un équilibre chez l'enfant qui perdure ensuite à l'âge adulte. Ce n'est pas vrai tout le temps, n'est-ce pas ? Puis la personne aussi est responsable de ses actes à partir d'un certain âge qui peut modifier sa personnalité. Principe à retenir, j'en ai marqué trois ici. En tant qu'enfant, il faut chercher à améliorer sa relation avec ses parents. Peut-être je m'adresse à des enfants plus jeunes, mais retenez quand même. Ce n'est pas facile d'être en bonne relation avec ses parents parce que les parents ne sont pas parfaits. Vous avez remarqué déjà, vous, avec vos parents ? Alors, quoi faire ? Je boude, je râle, je claque des pieds, je frappe la porte, je m'en vais. Non. Hein ? J'essaie d'améliorer ma relation avec mes parents parce que je suis un enfant qui veut être déjà responsable. Ce n'est pas toujours la faute des autres dans ma vie. Je ne peux pas toujours empêcher ce qui arrive autour de moi, mais par contre, j'ai une responsabilité de bien réagir. Et ça doit s'apprendre déjà à l'enfance. Deuxièmement, chercher plutôt la paix que les conflits. On peut faire bouillir le lait, n'est-ce pas, et déborder, ou on peut enlever le feu, et la tempête se calme. Et puis, sache que ta relation avec tes parents est le reflet de ta relation avec Dieu. Alors, on pourrait décrire, il y a quand même une grande vérité. La relation qu'on a avec les parents spirituels et le reflet de ce qu'on est avec Dieu. J'aimerais vous donner 7 conseils pratiques. Demande pardon à tes parents. Retenez cela, au moins. Ensuite, cherche à coopérer avec eux. Dis à tes parents que tu les aimes. Ça aide pas mal. Remercie-les pour tout ce qu'ils font pour toi. Cultive un esprit de reconnaissance. Évite d'élever ta voix contre eux. Ça n'arrangera rien. Laisse à Dieu le soin de changer leurs pensées, sachant que c'est son travail, pas le tien. On ne peut pas changer toujours les gens qui nous entourent. On n'a aucun pouvoir de changer les autres. Et les parents n'ont pas le pouvoir de contrôler, dans un certain sens, de changer leurs enfants. Parce que quand ils peuvent prier et donner un cas dans lequel les enfants seront peut-être bien disposés à vouloir obéir et changer. Et puis le dernier point, laisse à Dieu le soin de changer leurs pensées. Et le dernier point, sois super obéissant, tes parents en seront stupéfaits. Personnellement, j'étais un enfant rebelle. Et quand je me suis converti, je me suis aperçu de la folie de ma rébellion. J'ai mis du temps à comprendre certaines choses. Et je suis aujourd'hui brisé chaque fois que je vois l'obéissance exercée naturellement, volontairement, par exemple, d'un enfant envers un père ou une mère. Une brebis envers une autre brebis. Allez, je le dis, une brebis envers les anciens ou le pasteur. Ou un chrétien soumis, enseignable, c'est de toute beauté. C'est un joyau spirituel qui est le reflet d'un brisement intérieur où on dit non à l'égoïsme, moi d'abord, et on dit non à l'orgueil. Alors le défi, il existe à différents niveaux. Déjà, nous, avons-nous été obéissants envers nos parents? Et si ça n'a pas été le cas, peu importe l'âge qu'on a, allons demander pardon. Qu'ils soient sauvés ou non, priez que Dieu vous donne un moment favorable pour le faire. C'est l'obéissance et Dieu va vous honorer de faire cela. Deuxièmement, en règle générale, est-ce que nous honorons vraiment nos parents, peu importe leur âge? Est-ce que nous avons de la sollicitude pour eux? Est-ce que nous avons du respect pour eux? Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir encore rappelé ou enseigné les choses de base pour notre vie personnelle et notre vie de famille et notre société. Nous t'en bénissons et nous t'adorons pour ta parole qui est une vérité, sur une lumière sur notre sentier. Amen. Amen.